Michel Zévaco, Les Pardayans, tome 3, La Fausta. Prologue. Décor. Une nuit de printemps parfumée, mystérieuse et pure. Le parvis Notre-Dame. La cathédrale accroupie dans l'ombre comme un sphinx titanesque et, à l'autre bout, un seigneurial hôtel à façade sévère. Au balcon gothique, sous la caresse des clartés astrales, une blanche apparition de charme et de grâce, pareille à une vierge vaporeuse détachée du vitrail. Palpitante et radieuse, elle suit des yeux dans l'obscurité bleuâtre un élégant et fier gentilhomme qui s'éloigne. Cette jeune fille, c'est Léonore, l'unique enfant du baron de Montaigue. L'ange de pitié finale qui, depuis la tragique journée de la Saint-Barthélemy où le vieux huguenot fut supplicié, aveuglé des deux yeux, lui prodigue d'inépuisables consolations. Et ce seigneur à qui elle jette l'adieu passionné de ses baisers, c'est le fastueux et noble duc Jean de Kervilliers, son amant. Lentement, à regret, lorsqu'il a disparu, elle rentre, ferme le balcon, et dans cette chambre où ses rendez-vous nocturnes s'écoulent aussi rapides que les irréelles minutes d'un songe éblouissant, elle évoque le dernier épisode de son amour. Il y a une heure, ici même, suspendue au cou de Jean, elle a murmuré le plus émouvant et le plus redoutable des aveux. Elle va être mère. Comme elle a tremblé alors! Car le baron de Montaigue, l'aveugle, qui, à ce moment, dormait si paisible et confiant, ce père qu'elle adore, quelle serait son agonie de honte? Que ferait-il s'il apprenait? Léonore a entrevu des catastrophes. À son premier mot, Kervilliers est devenu livide, de bonheur sans doute, car il l'a enlacé d'une plus ardente étreinte et a balbutié de formelles assurances. Le vieillard ne saura pas, la faute réparée à temps sera ignorée de tous. Demain, lui, Jean, parlera. Demain, elle sera sa fiancée, dans peu de jours, sa femme. Voilà ce qui vient de se passer. Et maintenant qu'elle est seule, dans ce réduit d'amour tout plein des souvenirs de l'amant, Léonore resplendit de félicité. Elle est sûre de Jean comme on l'est du soleil qui rayonne. Son sein se gonfle, son front s'alourdit d'extase. Et ne sachant à qui confier le trop-plein de ce bonheur qui déborde, elle le redit au cher petit qui, dans quelques mois, viendra au monde. Et elle sourit à l'avenir, à demain, à cet ineffable demain qui... Tout à coup, un fracas retentit. Une vitre du balcon a sauté, une pierre enveloppée d'un papier roule sur le tapis. Léonore demeure d'abord immobile de stupeur et d'effroi, puis elle se rassure. Ce papier, alors, la fascine et l'attire. Un billet. Oh, elle ne le lira pas. Elle le rejettera aux ténèbres d'où il vient. Elle se baisse, le saisit, hésite et... Elle le déplie. C'en est fait, d'un trait, elle l'a parcouru. Alors, elle pâlit. Le papier tombe de ses mains glacées, son regard se voile, son cœur se serre, une plainte d'infinie détresse expire sur ses lèvres. Qu'a-t-elle lu ? Voici. Monseigneur l'évêque prince Farnèse, qui demain célébrera la Pâque dans Notre-Dame, est le seul qui puisse vous dire pourquoi Jean, duc de Kervilliers, ne vous épousera jamais, jamais. Qui a jeté la pierre ? Un jaloux d'amour ? Un ennemi de race ? Simplement un envieux ? Qu'importe, le délateur est ici un comparse, un de ces êtres obscurs, qui rampent et font un geste que nul ne voit. Seulement, le geste sème la mort. Et pendant que cet être, quel qu'il soit, écoute et regarde, pendant que la fille de Montaigue se débat aux prises avec le désespoir, le duc de Kervilliers, rentré chez lui, tombe à genoux devant un portrait d'Éléonore et sanglote. « Qu'a-t-elle dit ? Qu'elle va être mère ? J'ai bien entendu ? Perdu ! Oh, perdu ! Et moi, ah misérable, pourquoi n'ai-je pas fui quand cette passion m'a mordu au cœur? Pourquoi ne suis-je pas mort plus tôt? Dire qu'elle m'attend demain pour parler à son père? Que faire? Que devenir? Fuir? Fuir honteusement, lâchement? Fuir dès demain? Au coup de la grand-messe de ce dimanche de Pâques 1573, Léonore entre dans cette cathédrale dont, fille de Huguenot, elle n'a jamais franchi le seuil. Ce sont des heures d'inoubliable torture qu'elle vient de vivre. Mille suppositions affolantes ont traversé son esprit éperdu. Jean est-il marié avec une autre ? L'évêque va lui répondre. Dans l'église, elle s'arrête défaillante, consciente à peine de ce qu'elle fait. Sa raison flotte, son regard vacille, et soudain se fixe sur le maître-autel, là-bas, par-delà l'immense nef, tout au fond, où, dans la splendeur des cierges, environnés d'étincelantes chasubles, couverts d'or, le prince Farnèse, légat du pape, entonne le Kyrie. Léonore se met en marche. Par de lents efforts, elle se fraye un passage. Mais quand enfin elle atteint le chœur, elle est sans force. Elle n'est plus soutenue que par l'idée fixe, attendre que la cérémonie finisse, interroger cet évêque, lui arracher son secret, savoir s'il est vrai que son Jean l'est ainsi bafoué. 10 pas au plus la séparent du prince-évêque. Tourné vers le tabernacle, il officie en dépose, empreinte d'une solennelle dignité hiératique. « Ah, celui-là doit planer bien haut, au-dessus des lâchetés humaines. Celui-là ne mentira pas. » Et maintenant, Léonore a peur. Elle frissonne. L'approche de l'horrible réalité l'épouvante, elle se raccroche désespérément à son rêve d'amour, elle veut garder une illusion quelques minutes encore, un reste d'espérance. Elle veut reculer, s'en aller, sortir. Soudain, la sonnette résonne pour l'élévation. Tout se tait, tout se prosterne. Léonore est debout, haletante, si pâle qu'il semble que la mort l'ait touchée de son aile. Monseigneur Farnèse a saisi l'encensoir et, flamboyant de majesté, il se retourne. Une terrible secousse ébranle Léonore des pieds à la tête. Terreur et délire ! Cet évêque, l'étrange jeunesse de ce visage de prélat, cette flamme des yeux, cette éclatante beauté, elle les connaît, elle les reconnaît. Oh, mais c'est... Cet évêque, non, l'hallucination est par trop insensée. Il faut qu'elle s'assure qu'elle voit de près. Hagarde, rapide, elle franchit la grille, s'élance. Et alors ? Un suprême élan la pousse. Pantelante, elle monte les degrés de l'autel. Ses deux mains convulsives s'abattent sur les épaules de l'évêque foudroyé, anéanti, et un lamentable cri déchire le silence. « Puissance du ciel ! Jean, mon amant, c'est toi ! C'est toi !» Un geste de malédiction suprême, et Léonore inanimée tombe en travers des marches, au pied de l'évêque pétrifié, blanc comme un marbre. Une tempête de rumeurs se déchaîne. Profanation, sacrilège. On accourt, on se précipite sur Léonore, on la saisit. Et, tandis qu'on l'entraîne, qu'on l'emporte, qu'on la jette au fond d'un cachot, le prince Farnèse, duc de Kervilliers, l'évêque, l'amant, rugit dans sa conscience. « Damné ! Maudit ! Je suis maudit !» Sur la place de Grève, dans la brumeuse matinée de novembre, un flot humain houle et roule autour d'un échafaudage de poutres grossières. Contre le poteau central est assis un géant silencieux, semblable à quelque formidable cariatide de Michel-Ange. C'est Maître Claude, le bourreau. Ce sinistre squelette de madrier, c'est le gibet. Et ce peuple accouru des quatre horizons de Paris est là pour voir mourir Léonore, condamné pour mensonge diabolique et calomnie hérésiarque envers l'évêque. Le procès a duré 6 mois. Le jour même où Léonore a été arrêtée dans Notre-Dame, le baron de Montaigue, son père, s'est tué d'un coup de dague au cœur. Présumé complice du scandale, affirme le tribunal, il a ainsi échappé à la justice des hommes. Quant à l'accusée, à toutes les questions, elle a répondu par des regards sans vie, de ces regards qui donnent le vertige comme les abîmes. L'âme est morte. L'official n'aura qu'un corps à livrer au supplice. Elle est condamnée, elle va mourir. 9 heures sonnent. Le glas tinte. On entend le De Profundis, c'est le cortège. Les moines, les confréries, les pénitents qui psalmodient, le médecin juré, les gens du guet, le grand prévôt. Puis, soutenu par deux prêtres, les cheveux épars, les pieds nus, la tête renversée sur l'épaule, c'est Léonore. Et derrière elle, entourée d'inquisiteurs qui la surveillent, morne, vieillie, décomposée, marchant tout éveillée dans un rêve funèbre, lui, l'amant. Ordre implacable venu du Saint-Office de Rome, il faut que sa présence et son indifférence prouvent au monde que l'hérétique a menti en accusant un évêque au pied même du trône de Dieu. De profonds remous agitent la multitude. Léonore vient de s'arrêter sous la potence. Le prince Farnèse ferme les paupières et se raidit. Tous les fronts se découvrent. Un long murmure de compassion fait onduler la surface de la grève. Quoi, si jeune et si belle, mourir de cette mort hideuse? Soudain, tout s'immobilise dans un effrayant silence. Le grand prévôt fait le signe fatal. Le bourreau s'avance. Sa large main tombe sur l'épaule nue de la condamnée. Il empoigne, la traîne. Il va lui passer la corde au cou. L'instant est atroce. À cette suprême seconde, Léonore, dans un spasme qui l'arrache à la monstrueuse étreinte, s'affaisse sur le sol, ses deux mains à ses flancs. Et coup sur coup, deux clameurs brèves, stridentes, déchirantes, font explosion sur ses lèvres crispées. Et toutes les mères présentes sur la grève chancellent d'horreur. Car ces clameurs, ah, ce n'est pas là le gémissement du dernier instinct devant la mort. C'est le cri sublime et terrible de la souffrance devant la création. Cette femme qui va mourir, eh bien oui, là, sous la corde qui se balance, elle se débat dans les douleurs de l'enfantement. Claude, le bourreau, recule. Le médecin juré s'élance, s'agenouille, tandis qu'une rafale de frémissements balaie la grève. Et lorsqu'il se relève enfin, le peuple, aux côtés de Léonore, prostré, inerte, évanoui, aperçoit un tout petit être qui vagit, pleure et vaguement tend ses pauvres menottes à cette foule immense comme pour dire « Mais je n'ai rien fait, moi, je suis innocent, laissez-moi vivre !»« Une fille, c'est une fille !» crie une femme. La foule, tout autour de cette nouvelle-née, si faible, si seule, demeure un instant pantelante. Puis, brusquement, la pitié déborde, éclate et gronde comme un fleuve qui roulerait des flots de détresse. Alors c'est un orage d'émotions qui monte de la place. On supplie, on menace, on crie grâce et miséricorde pour la mère. Le grand prévôt hésite. Puis, convaincu par l'immense compassion du peuple, il jette un ordre. La condamnée à la vie sauve. Un délire soulève la multitude en acclamations. Des hommes pleurent, des femmes qui ne se connaissent pas s'embrassent. Léonore, sans connaissance, est emportée sur une civière et l'enfant demeure. La condamnée n'a pas le droit de nourrir sa fille en prison. L'innocente créature est abandonnée à la merci publique. Une heure durant, elle sera exposée là où elle est née, sous le gibet. La foule s'approche, les groupes défilent, et maintenant, c'est avec une crainte superstitieuse qu'on la contemple. Pauvre toute petite qui attend qu'on lui fasse la charité d'une mère. Et toutes la plaignent, des larmes de pitié coulent de tous les yeux, mais personne n'ose l'adopter. Une fille d'hérétique, de criminelle, ce serait le malheur dans la maison. Et Farnèse, Jean de Kervilliers, le père. Il est là, haletant, la sueur aux cheveux, dévorant des yeux cette chair de sa chair, courbé, enchaîné par l'effroyable obéissance à d'effroyables ordres supérieurs. Il veut prendre son enfant, l'emporter. Il ne doit pas, il ne peut pas. Quoi ? La mère a été graciée et la fille va donc mourir là ? Non, oh non ! Car voici quelqu'un, enfin. Quelqu'un qui s'approche d'elle, se penche, se baisse, avec un sourire tout mouillé de pleurs. et celui qui donne au peuple cette leçon de pitié, très doucement murmure « Pauvre petite Violette, poussée au pied de l'arbre d'infamie, nul ne veut de toi. Eh bien, c'est moi qui te prends. Viens, tu seras ma fille. » Alors, avec des précautions délicates et tendres, ce quelqu'un enveloppe la frêle abandonnée dans un pan de son manteau. Puis, tandis que l'évêque, brisé, contenu par les inquisiteurs, éclate en sanglots et tend les bras, l'homme lentement s'en va, emportant la fille du prince Farnèse. Et cet homme, c'est le bourreau.